بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. On va inshallah entamer le troisième hadith de l'explication des 40 hadiths an-nawawiyya. Peut-être avant de commencer le troisième hadith, revenir à une notion importante qui a été évoquée dans le deuxième hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab, le hadith de Jibril. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini les composantes de la foi, il a dit وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Il fait partie de la foi, des piliers de la foi, d'accepter, de croire, d'être satisfait du destin quand il est imparti pour le bien ou le mal, c'est-à-dire quand il va dans ton sens, en ta faveur, ou quand il est contre toi. Et là, ça renvoie aux deux choses qui peuvent te toucher dans ta vie, soit un bonheur, soit un malheur. Enfin, malheur, faut le mettre entre guillemets. Soit un bonheur, soit un malheur, soit un bienfait, soit une épreuve. Et en fait, le croyant, il doit avoir deux qualités pour justement réussir à accepter le destin. Quand il est touché par un bonheur, par un bienfait, un don de Dieu, il doit se montrer, il doit faire preuve de gratitude, il doit se montrer reconnaissant, remercier Dieu. Parce que s'il ne remercie pas Dieu quand il est touché par un bienfait, il va être ingrat, il va peut-être même aller jusqu'à s'approprier ce bienfait. C'est-à-dire que Dieu peut lui donner une science à l'être humain et il n'est pas reconnaissant, il finit par penser que son intelligence, elle vient de lui, il est exclusivement l'auteur de son intelligence ou il est exclusivement l'auteur de ce qu'il a fait. Et il finit par quoi ? Par être atteint d'orgueil, hein, comme ça a été rapporté dans l'histoire de Qarun, hein, celui qui était extrêmement riche. Il a dit, ces richesses sont le fruit de quoi ? De ma science, c'est-à-dire de ma connaissance, de mon intelligence. Et il a fini par être enseveli par Dieu dans la terre, quand un jour il est sorti avec son cortège et il s'est montré, il s'est pavané, et Allah Azzawajal l'a puni. Donc quand le croyant est touché par un bonheur, il doit remercier Dieu. Et c'est très important d'être doté de cette qualité. Ça fait partie de la taqwa, de la piété, que de remercier Dieu sur les bienfaits. Et vous savez que les bienfaits de Dieu sont innombrables. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous vous mettiez à compter, à énumérer les bienfaits de Dieu sur vous, dans votre vie, vous ne pourrez réussir. Vous ne pourrez les cerner tellement ils sont nombreux. Mais plus que le grand nombre des bienfaits, parce que c'est vrai que c'est difficile de remercier Dieu sur ses bienfaits parce que on n'arriverait même pas à les dénombrer. Mais pire que ça, enfin, encore plus difficile que ça, c'est qu'un seul bienfait, tu ne pourrais remercier Dieu comme il se doit sur ce bienfait. La preuve, c'est que le jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal va dire à un de ses serviteurs qu'il l'a adoré pendant 70 ans dans les communautés précédentes à l'islam, dans sa dernière version par le prophète. Un homme des fils d'Israël, si je me souviens bien, il a adoré Dieu, c'était un ermite, il adorait Dieu dans un endroit retiré, reculé, un ascète, et il jeûnait toute la journée, il priait toute la nuit, pendant 70 ans. Et Dieu, le jour de la résurrection, il va lui dire, je te fais entrer au paradis, mais à ton avis, grâce à quoi ? Et il va lui dire, grâce à mes œuvres, grâce à toute mon adoration, ma vie passée, à quoi à t'adorer ? Allah Azza wa Jal, il va lui dire, on va voir si tu as raison. Il va prendre son œil, il va le mettre sur un côté de la balance son œil, hein, sur un côté de la balance, et les œuvres des 70 ans sur un côté de la balance, sur l'autre côté. Et qu'est-ce qui va l'emporter? C'est le bienfait de l'œil. C'est-à-dire que même l'œil, tu ne serais pas capable de remercier Dieu sur ce bienfait. Donc imagine-toi, rajoute à cela la langue, rajoute à cela la santé, rajoute à cela les enfants, l'épouse, la vie, etc., etc. C'est impossible de remercier Dieu comme il se doit. C'est pour ça que Dieu, il ne nous demande pas de le remercier comme il sied à sa grandeur, à sa générosité, ou comme il le mérite, parce que c'est impossible, c'est au-delà de nos forces, mais il nous demande de le remercier comme lui, il le demande. C'est différent. Et tu ne pourras pas remercier Dieu comme il le mérite. Mais ce qui t'est demandé, c'est de le remercier comme lui, il le veut. Et qu'est-ce que Dieu demande de nous afin de le remercier? C'est tout simplement de lui obéir. Si tu lui obéis, alors tu l'auras remercié comme il se doit. Enfin, comme il le veut plutôt. Parce que comme il se doit, on a dit, c'est impossible. Et Allah Azzawajal, dans ses dons, dans les bienfaits qu'il donne aux êtres humains, il ne distingue pas le croyant de celui qui est mécréant. Il donne aux deux. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Allah Azzawajal dit, nous donnons à cela, à ceci et à cela de nos bienfaits. C'est-à-dire que nous donnons à ceux qui nous obéissent et à ceux qui nous désobéissent de nos dons, de nos bienfaits. D'accord? Mais, bien entendu, si Dieu donne aux croyants et à celui qui lui est rebelle sur terre, dans l'au-delà, ses bienfaits ne sont réservés qu'à celui qui lui a obéi. Parce que vous savez que ce passage sur terre, finalement, c'est un examen, un test, et tout ce qu'il peut nous donner, c'est dérisoire, c'est éphémère, et le véritable don, c'est le paradis, le jour de la résurrection. C'est pour ça que, on ne doit pas, en tant que croyant, s'opposer à Dieu quand il a donné à celui qui ne l'adore pas des voitures, des enfants, une carrière, une réputation, une notoriété, de l'argent, etc. On ne doit pas être attristé ou se dire c'est injuste. Cette personne est une personne qui désobéit à Dieu, elle fait du mal sur terre et pourtant Dieu l'a comblée de ses bienfaits. Mais Dieu le dit bien dans le verset, il donne à tout le monde. Et d'ailleurs, les deux grands bienfaits les plus importants, il les a donnés au même titre aux croyants et aux incroyants. Il a donné l'existence et la subsistance aux deux. Il nous a donné la vie, l'existence, à nous croyants et à ceux qui sont rebelles. Et également, il donne la subsistance à ceux qui sont croyants et à ceux qui ne le sont pas. Mais la foi, qui est aussi un bienfait, la religion, il ne la donne qu'à ceux qui ont bien voulu être guidés. Ça, c'était les bienfaits. Mais également, le croyant, il doit avoir une autre qualité, c'est la patience face aux épreuves. Donc la gratitude face aux bienfaits et la patience face aux épreuves. Afin qu'il ait une foi authentique, c'est-à-dire qu'il ait la foi au destin quand il va dans son sens et quand il est contre lui. Et les épreuves se divisent en deux. Il y a deux catégories d'épreuves dans la vie du croyant. Il y a ce qu'on appelle al-musiba, c'est-à-dire le malheur, et al-fitna, qui est le conflit. C'est-à-dire que dans ta vie, tu connaîtras deux types d'épreuves en tant que croyant. Soit un conflit, soit un malheur, et les deux bien souvent. On va parler un peu de al-musiba, qui est le malheur. Al-musiba, le malheur, c'est en fait ce que Dieu te prédestine et qui n'est pas entre tes mains ou entre les mains des gens. Ça vient directement de Dieu. C'est quelque chose qui est décrété par Dieu. Par exemple, une maladie. Tu es touché par une maladie ou un accident dont bien entendu tu ne serais pas à l'origine, hein. On parle de maladies, hein, qui viennent comme ça subitement, ou un accident qui vient sans que tu le veuilles, sans que tu n'en sois à l'origine, un cancer, un accident sur la voie rapide, etc., etc. Ou bien, par exemple, tu as un projet de mariage et tu ne trouves pas la femme que tu veux, ou la femme ne trouve pas son promis. Et c'est pas entre ses mains, c'est Dieu qui en décide ainsi. Ou bien un couple qui attend des enfants et qui n'en ont pas. Ou un couple qui a des enfants, il meurt en bas âge. La mort d'un proche, de quelqu'un que tu aimes. Ou bien un projet commercial, d'un jour à l'autre, il y a un incendie, il y a un déluge, je ne sais trop quelle catastrophe naturelle qui viendrait en fait faire tomber à l'eau tout ce que tu auras entrepris, donc tu es endetté. Tu deviens pauvre après avoir été riche, tout ça vient de Dieu. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, des malheurs. Ça vient de Dieu. Face au malheur, le croyant, parce qu'il est un être humain, il va s'attrister. Ce qui est normal. Réaction naturelle, il va être triste face au malheur. Cependant, il doit substituer, c'est-à-dire remplacer, cette réaction négative et naturelle, qui est la tristesse, par une réaction positive qui relève de la foi, c'est la patience. C'est-à-dire qu'il doit réussir à passer de la tristesse à la patience, et ça demande la foi. La foi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la certitude et ce qu'on appelle la rémission, at-tawakkul, le fait d'avoir confiance en Dieu, de s'en remettre à lui. Et on pourra passer de la tristesse devant l'épreuve à la patience, qu'en ayant ce qu'on appelle al-yaqin, c'est-à-dire la certitude que ce malheur vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Deuxièmement, que ce malheur qui m'a touché, seul Dieu peut le lever. J'ai été privé, j'ai été touché par un malheur, une maladie, seul Dieu peut me guérir. Seul Dieu peut me donner ce qu'il m'a retiré. Et ça, Allah Azzajal l'a bien dit dans ce verset. C'est-à-dire que Allah Azzawajal dit, quand il te touche d'un malheur, personne ne peut te le faire éviter ou le lever si ce n'est Dieu. C'est Dieu qui peut lever ce malheur. Donc, ça vient de Dieu. Seul Dieu peut m'aider. Troisièmement, si Dieu m'a éprouvé par ce malheur, c'est qu'il y a un bien dans ce malheur. Parce que Dieu dit, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, c'est moi qui sais et vous ne savez pas. Ou bien il dit wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Il se peut que vous ayez en aversion une chose alors qu'elle est bonne pour vous, il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Donc le bien et le mal, c'est relatif. Seul Dieu, qui a un savoir absolu, qui est sage, peut cacher dans un mal un bien, et seul lui peut le savoir. Mais toi, comme tu as la certitude que ça vient de Dieu, tu sais qu'il y a un bien dans ce malheur. Tu es certain que le bien, au moins dans ce malheur, il y a un bien, c'est que Dieu, en te touchant par l'épreuve, qu'est-ce qu'il fait? Il te débarrasse de tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, quand le croyant est touché par c'est-à-dire que le croyant touché par un malheur, un souci, une fatigue, même l'épine qui le piquerait, donc tous ces malheurs, hein, ces malheurs qui viennent de Dieu, te débarrassent de tes péchés comme les feuilles d'un arbre, comme les feuilles qui tombent d'un arbre. Donc Allah Azzawajal, en te touchant par cette épreuve, par ce malheur, il te purifie de tes péchés. Donc ça, c'est un bien. Deuxième bien, quand tu es touché par un malheur, c'est que Dieu t'aime. C'est une preuve que Dieu t'aime. Comme le dit le prophète, Ashaddu an-nas bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Il a dit inna 'idham al-jaza ma'a 'idham al-bala. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal dit à travers la bouche de son prophète, ceux que j'éprouve le plus, ce sont les prophètes, et ensuite ceux qui leur ressemblent. Et plus j'aime une personne, et plus je l'éprouve, et la récompense dépendra de l'épreuve. Donc non seulement tu es débarrassé de tes péchés, mais en plus, si tu étais touché par plusieurs malheurs, ça veut dire que Dieu t'aime. Troisièmement, sache que Dieu te réserve, après ce malheur, un bonheur, à condition que tu patientes. Umm Salama, la femme du prophète, enfin Umm Salama, avant de dire que c'est la femme du prophète, Umm Salama rapporte que quand son mari, elle rapporte ce hadith, le prophète a dit, quand le croyant est touché par un malheur, et qu'il dit, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, c'est à Dieu que nous appartenons, et c'est vers lui inéluctablement que nous allons retourner. Et ensuite, il dit à Dieu, Allahumma khlufni fi musibati wa ajirni fi musibati wa khlufni khayran minha. Ya Allah, récompense-moi dans mon épreuve et remplace-la par ce qui est meilleur. Si il a ce comportement, donc il se rattache à Dieu. Et en plus, il demande à Dieu de remplacer ce malheur par un bien. Umm Salama dit que le prophète dit, Allah Azza wa Jal va non seulement le récompenser, mais en plus le remplacer par un bien. Et elle a dit, quand mon mari est mort, j'ai fait ce que m'a demandé le prophète, j'ai dit, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, j'ai ensuite demandé à Dieu de me récompenser et de remplacer la perte de mon mari par quelque chose de meilleur, et Allah Azza wa Jal m'a donné le prophète Muhammad comme époux. Voilà, donc non seulement Dieu t'aime, il te retire tes péchés, mais en plus il va te donner quelque chose de meilleur, soit ici-bas, soit dans l'au-delà. Et encore, Allah Azza wa Jal, en t'éprouvant, il te pousse à te détacher de cette vie et à te rattacher à lui et à la vie de l'au-delà. C'est pour ça que les pauvres, ceux qui sont dans la misère, les indigents, ceux qui sont les plus éprouvés par les maladies, ce sont ceux qui désirent le plus la mort au sens de qui désirent le plus la rencontre de Dieu. Ils se détachent de cette vie et leur cœur s'attache à quoi? À la rencontre de Dieu. Ils veulent quitter la vie d'ici-bas pour l'au-delà. Mais on a dit, hein, quand on est touché par un malheur, on va s'attrister. Pour patienter, il faut qu'il y ait la foi, la certitude et la confiance en Dieu, c'est-à-dire savoir que ça vient de lui, qu'il y a un bien, et savoir que celui peut me sauver de ce malheur. Ça, c'était le premier type de malheur. Le premier type d'épreuve, c'est le malheur. Il y a un deuxième type d'épreuve dans la vie du croyant, c'est al-fitna, c'est-à-dire un conflit. Et le prophète a dit que le musulman, le croyant, connaîtra dans sa vie cinq conflits. Un conflit avec mu'minun yahsudu, un croyant qui va le jalouser. Munafiqun yabghadu, un hypocrite qui le déteste. Kafirun yuqatilu, un homme qui ne partage pas sa religion, qui est sans foi ni loi, qui va le combattre, mais aussi shaytanun yudillu, le diable qui va tenter de l'égarer, et nafsun tunazi'u, son ego qui va le tenter, son ego qui va l'inciter au mal, le tenter. Donc, le croyant est touché par un malheur, mais aussi par une épreuve avec ces cinq types de personnes, ou ces cinq choses. Le croyant, son frère, mais aussi l'hypocrite, mais aussi celui qui ne partage pas ses valeurs et sa religion, mais aussi le diable, et c'est lui l'ennemi juré, et également sa propre personne. Et ça, c'est l'un des pires ennemis. c'est le nafs, parce que c'est un ennemi qui est intérieur, ok, et c'est un ennemi que tu aimes, puisque ton ego, c'est celui que tu aimes. Donc c'est un ennemi d'autant plus difficile à combattre qu'il est en toi et que tu l'aimes. Donc c'est très difficile. Et forcément, quand tu seras en conflit, tu vas également être attristé. Et surtout, tu vas être anxieux et touché par les soucis. Les soucis, pourquoi ? Parce que quand tu vis un conflit, tu as peur de l'avenir. Tu as peur du mal de la personne, de ce qu'elle va te faire. Et également, le conflit est difficile parce que tu essaies de trouver une solution, une réponse au problème, et c'est souvent très compliqué et très difficile. Donc ce sont des soucis qui empêchent de dormir, des soucis qui créent parfois des maladies, c'est très difficile. Maintenant, la tristesse et les soucis doivent laisser place à quoi ? À la patience également. Encore une fois, la patience dans le conflit. Et là, pour passer de ce ressenti à cette attitude de foi, il faut également à la fois la confiance en Dieu et la certitude. La certitude de quoi ? Cette certitude, le prophète l'a enseignée à Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'un jour il était derrière lui sur sa monture, il lui a dit « Ya Roulam, ô fiston, je vais t'enseigner des paroles, retiens-les. » Il est encore tout jeune. Il lui a dit, dans le hadith, « Wa'alam anna l'ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka bi shay'in illa qad kataba Allahu alayk. » Si les gens sur terre, tous, s'entendaient à te faire du mal, aucun mal ne pourra te toucher sans que Dieu ne l'ait au préalable décrété. Et si tous les gens également se réunissaient pour qu'un bien te parvienne, aucun bien ne pourra te parvenir si Dieu ne te l'a pas décrété. Autrement dit, en fait, les êtres humains ne décident de rien, ni le bien ni le mal. Donc pourquoi dépendre d'eux dans le bien et placer notre confiance en eux dans le bien? Et pourquoi avoir peur d'eux? Pourquoi les craindre dans le mal? Puisque finalement, tout vient de Dieu. Donc plus la foi augmentera, plus la certitude de cette parole sera dans ton cœur, et moins tu auras peur des gens, et plus tu seras courageux dans le conflit, puisque tu n'auras plus peur des gens. Tant que tu es dans la vérité, que le mal, c'est Dieu qui le décrète, donc pourquoi avoir peur des gens? Donc ça te donne de la force, du courage, et généralement tu arrives à t'en sortir. Ou en tout cas, tu es apaisé. Donc le croyant, il est dans sa vie soit touché par un bienfait, soit par une épreuve. Et l'épreuve se divise en deux, le malheur et le conflit. Et c'est toujours la foi la solution à tout cela, c'est la foi. La foi en quoi ? Ce qu'a dit Jibril, ce qu'a dit le prophète à Jibril quand il a dit « Wa tu'mina bil qadari khayri wa shari » c'est le fait de croire au destin quand il va en ta faveur, les dons, les bienfaits, et quand il est contre toi, les malheurs et les conflits. Ça, c'était par rapport à ce qu'on avait dit la semaine dernière en parlant de ce hadith. Passons au hadith suivant, le troisième hadith. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, le fils de Umar ibn al-Khattab, qui est le rapporteur des deux hadiths précédents. Donc là, c'est son fils. Il dit... سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول j'ai entendu de mes oreilles le prophète dire بني الإسلام على خمس l'islam est fondé ou repose sur cinq choses, cinq piliers. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. L'attestation, le témoignage qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Dieu est unique, et que Muhammad est son prophète, son dernier prophète. Wa iqam al-salah, l'application de la prière. Wa ita' al-zakah, l'application de la zakat. Wa hajj al-bayt, l'accomplissement du hajj. وصوم رمضان, accomplir le jeûne du mois du Ramadan. Vous allez me dire rien de nouveau, puisque le hadith précédent, Jibril a posé la question au prophète en disant, c'est quoi l'islam? Et il lui a dit, c'est cinq choses. Donc pourquoi l'imam Nawawi a rapporté ce hadith? N'y a-t-il pas répétition? Il n'y a pas de répétition. Parce que, souvenez-vous, la question de Jibril au prophète, c'était qu'est-ce que l'islam? C'est-à-dire, définis-moi l'islam. Définis-moi, donne-moi les composants de l'islam. De quoi est composé l'islam? Et il lui a donné les cinq composantes. Ici, dans ce hadith, on ne nous parle plus des composantes de l'islam, mais on nous parle du rôle et des fonctions et de la place de ces cinq composants de l'islam. Ici, le prophète a dit, l'islam a été fondé, repose sur cinq piliers. Autrement dit, ce sont cinq choses qui sont dans l'islam. Mais quels sont leurs rôles? Ils jouent le rôle de piliers. Ça veut dire que eux ne sont pas les seuls composants de l'islam. Hein? C'est vrai qu'il y a cinq choses. Mais quand on te dit leur rôle, tu comprends qu'en fait, ce sont cinq piliers, mais qu'au-dessus, il y a autre chose. Et que ces cinq choses, dans ta religion, ce sont des piliers. C'est-à-dire que ta religion repose sur une fondation. Si elle est fermement solidifiée, ta religion sera solide, comme un édifice. Ça joue le rôle de quoi? De pilier, de fondation, de base. Donc si ces cinq choses sont bien appliquées, alors ta religion est solide. Et si il y a une négligence, une lacune dans l'un de ces piliers, alors l'édifice de l'islam est fragile, est fragilisé. Donc ici, le prophète insiste sur quoi? Sur le caractère fondamental de ces cinq piliers, qui sont l'attestation de foi, évidemment. L'attestation de foi, c'est quelque chose qui est dans le cœur et c'est elle qui donne sens à tout ce qu'on fait. C'est de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est son prophète. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'islam. Donc lui, enfin, cette attestation de foi, c'est la plus importante. Ensuite, il y a la prière, qui est aussi un fondement, un pilier dans l'islam. Et on va insister sur ce pilier. Le jeûne, la zakat et le hajj, on les cite, on ne va pas insister dessus, en tout cas maintenant. On va insister sur la prière. Allah Azzawajal, quand il a parlé des croyants, encore une fois, regardez, il parle des croyants. Il dit, mu'minun, qad aflaha al-mu'minun, alladhinahum fi salatihim khashi'un. Bienheureux sont les croyants, qui se concentrent, qui craignent Dieu dans leur prière. Ici, Allah Azzawajal va évoquer les qualités du croyant qui est qualifié de bienheureux, c'est-à-dire quelqu'un qui a réussi sa vie de croyant. Première caractéristique, quelqu'un qui cherche, qui fait l'effort de se concentrer dans sa prière. Et ensuite, Allah Azzawajal cite des autres qualités. Ceux qui délaissent les paroles futiles, vaines, mauvaises, et ensuite ceux qui font. Il cite. Donc il commence par la salat et il va clôturer les qualités du croyant bienheureux par la prière encore une fois, en disant et ceux qui finalement s'appliquent à accomplir leur prière à l'heure. Ceux qui s'appliquent à accomplir leur prière à l'heure comme il se doit. Donc il commence, Allah Azzawajal, en évoquant les qualités du croyant par la prière et il finit par la prière. Comme s'il voulait nous dire que tout est lié à la prière. Tout est lié à la prière. Et effectivement, tout est lié à la prière. Et au départ, il insiste sur le fond de la prière, la concentration, et à la fin, il insiste sur la forme. La forme, c'est-à-dire comment tu l'accomplis et à quel moment tu l'accomplis. Et Allah Azzawajal nous dit dans les dernières sourates du Coran, malheur à ceux qui pratiquent la prière avec malheur à ceux qui sont distraits de la prière. Wailun 'ala al-musallin alladhina hum 'an salatihim sahun. Ceux qui sont distraits de la prière. Par quoi? Ben, par beaucoup de choses dans cette vie. Qui sont distraits de la prière. Malheur à eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour de la résurrection, Dieu, dans son jugement, quand il va nous juger, il va commencer par nous juger sur la prière. Et si ça se passe bien pour la prière, ça se passera bien pour le reste. Si ça se passe mal dans la prière, ça se passera mal pour le reste. Et il dit également que Dieu va regarder notre prière obligatoire. Si elle est bien accomplie, alors elle sera considérée comme achevée. Si elle est manquante, Dieu va demander aux anges de regarder si il y a chez mon serviteur des prières surérogatoires qui sont facultatives, qui ont été faites en plus. Et ces prières surérogatoires vont quoi? Vont venir combler les lacunes, les défaillances dans la prière obligatoire. Donc l'un des rôles des prières surérogatoires, c'est quoi? C'est de venir consolider les lacunes, enfin consolider les brèches qui sont dans ta prière obligatoire. Et le rôle aussi des prières surérogatoires, c'est d'empêcher le shaitan, le diable, de te déconcentrer dans l'obligatoire. Et on donne l'exemple de cet homme qui a un palais entouré d'un jardin luxuriant, avec beaucoup d'arbres, de végétation. Le voleur qui était venu pour voler l'argent qui est dans le palais. Comme ce palais est entouré de jardins, il va être distrait par le jardin. Il va d'abord s'occuper à quoi? À voler ce qu'il y a dans le jardin. Et finalement, il n'atteindra pas la maison. Donc l'obligatoire qui est le palais doit être protégé. Par quoi? Par le surérogatoire qui va en fait empêcher Shaitan de te déconcentrer dans l'obligatoire. Ça, c'est aussi l'une des fonctions. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui délaisse sa prière, celui qui ne prie pas ou qui délaisse sa prière, il a démoli sa religion parce qu'il a délaissé la chose la plus importante. La chose là, la plus importante. Et vous savez que la prière, elle a beaucoup de bienfaits dans notre vie. L'un des bienfaits, c'est que elle nous rappelle que Dieu nous voit. C'est pour ça que la prière, elle a été prescrite à des horaires, à des périodes particulières dans la journée. C'est-à-dire que Allah Azzawajal, dans sa sagesse, il a voulu que tu viennes à sa rencontre, que tu te souviennes de lui, 5 fois dans ta journée à des moments différents, de sorte que toute ta journée est en fait parsemée de quoi? De son souvenir. Parce que c'est pour ça que, enfin pour faire une digression, c'est pour ça que on n'a pas le droit, hein, et ça on y reviendra peut-être à la fin, si on n'a pas la capacité, si on n'est pas capable de prier. Parce qu'on est dans les transports, on est au travail, je ne sais pas, on est occupé. Il ne faut pas se tromper et penser que tu rassembles toutes tes prières à la fin de la journée. C'est pas possible. Ça n'existe pas. De quoi de rassembler toutes ces prières à la fin de la journée parce que durant la journée, j'ai pas pu. Parce que Dieu te demande de le rencontrer à des moments précis, tu n'as pas le droit de rater ce rendez-vous. Sauf s'il te le permet. C'est-à-dire la femme qui a par exemple ses règles. Elle, elle n'a pas besoin de prier. Elle ne prie pas. Et c'est Dieu qui l'a décidé. Mais à part ça, tu es obligé de prier. C'est la seule ou l'une des seules, hein, dispense de la prière. Ou sinon, tu es obligé de prier, même si tu es malade, même si tu es dans un cas extrême. On verra comment après. La prière, elle ne doit jamais être délaissée. Et elle doit être faite à l'heure, c'est-à-dire dans une période bien précise. Parce que si le médecin te prescrit un médicament et il te dit tu dois le prendre à 8 h du matin, ensuite à midi, ensuite à 16 h, ensuite à 20 h, si tu rassembles toutes les pilules à la fin de la journée, le médicament il sert à rien. La prière, c'est la même chose. C'est un médicament de notre cœur, c'est une nourriture spirituelle qui a un effet sur ton cœur si elle est accomplie à ces moments que Dieu t'a demandé. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal a bien dit ça dans le Coran quand il a dit Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière a été prescrite à des moments bien déterminés. On ne peut pas les changer. Sauf, on le verra, en cas de voyage, où on peut rassembler, etc. Mais la règle, c'est de faire les prières à des moments bien déterminés. Et Allah Azzawajal, il sait très bien qu'aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui, ça a toujours existé, des gens, et on est dans ce cas-là, vont trouver de la peine, ils vont trouver difficile l'accomplissement de la prière. C'est pour ça que quand il a prescrit la prière, Allah Azzawajal, à travers son prophète, il a mis en évidence cette facilité d'accomplir la prière à deux niveaux, au niveau de la prescription et au niveau de l'application. La prescription, regardez comment la prière elle a été prescrite. Vous connaissez, je pense tous, l'ascension du prophète au paradis, quand il a rencontré Dieu, et c'est là qu'il lui a demandé de quoi d'accomplir au départ 50 prières. Il a dit, ce sera 50 prières. Et quand il a rencontré Moussa, Moïse, Moïse va lui dire, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il va lui dire, Dieu a demandé à ma communauté d'accomplir 50 prières. Il va lui dire, c'est trop, demande-lui d'alléger. Et il va aller chez Dieu, et finalement, Dieu va baisser le nombre à 5. Au début, c'était 50, ensuite 5. Et il va dire, ça sera 5 dans le nombre, mais 50 dans la récompense. Donc déjà, Allah Azzawajal va alléger le nombre de prières. Ensuite, au départ, avant qu'il y ait ces 5 prières quotidiennes, au départ, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça, c'était à une époque un peu tardive. Mais au départ de la révélation, avant les 5 prières quotidiennes, les gens priaient. Mais ils priaient 2 unités de prière le matin, 2 unités de prière le soir. Ensuite, ça a été 5 prières avec des unités différentes, 2, ensuite 4, 4, 3 et 4, et 2 en voyage. Donc là aussi, au départ, ce n'était pas 5, mais c'était 2, 2. Ensuite, 5, après que Dieu avait pensé au départ ou demandé au départ 50. Ensuite, quand tu regardes la prescription de la prière, au départ, ils avaient le droit de parler dans la prière. Au départ, ils avaient le droit de parler. Ils avaient le droit de répondre à celui qui éternue. Ils avaient le droit de se saluer. Quand quelqu'un entre et salue, ils avaient le droit de lever la main. Donc il y avait une certaine souplesse. Et ensuite, Allah Azzawajal a demandé, est-ce que dans la prière, et ce verset est venu dire, vous devez maintenant vous concentrer dans la prière, il ne faut plus parler, discuter, il faut se concentrer et évoquer Dieu et aussi réciter sa parole. Et quand tu regardes l'application même de la prière, tu verras qu'il y a beaucoup de souplesse dans l'application même. Effectivement, quand tu es en voyage, il y a de la souplesse. Au lieu de faire 4, tu peux faire 2. Tu peux rassembler. Donc tu es court, mais tu peux aussi rassembler. Et quelquefois, quand tu n'es pas en voyage, dans certains cas, en cas de besoin, tu peux également rassembler, comme a fait le prophète un jour à Médine. Tu peux rassembler le Maghrib et l'Isha, ou bien le Dhuhr et l'Asr, notamment nous quand on doit travailler. Dans l'application aussi, tu verras que le prophète a dit, si tu es malade, tu pries comme tu peux. Si tu peux prier assis, tu pries assis. Si tu ne peux pas, tu pries allongé. Donc il y a aussi une facilité. Une facilité dans les ablutions aussi, avec l'eau, mais en cas de difficulté, avec la terre. même dans ta prière qui normalement, où normalement tu dois rester immobile et concentré, parfois tu peux bouger. Par exemple, quand il y a un enfant qui pleure, ton enfant qui pleure, tu as le droit de le porter, comme a fait le prophète, avec sa petite fille ou ses petits-fils. S'il y a un danger, tu peux te déplacer et retirer ce qui gêne. Si ton fils va tomber, tu peux aller le rattraper et ta prière est valide et tu continues. Donc la prière, c'est vrai que tu dois être concentré, mais jamais tu ne dois perdre en vue ton environnement. Tu dois aussi être en alerte s'il y a quelque chose. Si tu te souviens que tu as une souillure sur ton vêtement, eh ben tu as le droit d'enlever ton vêtement. C'est pas que tu as le droit, c'est que tu dois enlever ton vêtement. Tu l'enlèves et tu le poses et ta prière est bonne. Si par exemple tu es en groupe et il y a une place devant dans le rang, tu as le droit de te déplacer et de combler la place vide et ta prière est valide. T'as bougé, mais ta prière est encore valide. Tu as le droit, si il y a un danger, pour l'homme de dire Subhanallah, pour la femme de claquer des mains. Yani, quand tu regardes la prière, c'est vrai qu'à l'origine, tu dois être concentré, immobile, mais parfois, en cas d'imprévu, dans certaines circonstances, eh ben, tu as une certaine souplesse. Comme ça a été le cas de Abu Barzat al-Aslami, ce compagnon, qui a rapporté son cheval et qui a prié. Et il tenait la sangle de son cheval en priant. Et comme le cheval bouge, eh ben il bougeait dans sa prière. Il le retenait, il avançait, il reculait. Et les Khawarij, la secte dissidente de l'islam, ont vu ce compagnon dans cet état, dans sa prière. Et ils se sont moqués de lui. Et en finissant sa prière, il leur a dit, vous vous moquez de moi, vous me reprochez ma manière de prier, alors que j'ai participé à plus de 8 batailles avec le prophète et j'ai pu remarquer la facilité avec laquelle il pratique sa religion. Donc les Khawarij qui n'avaient pas connu le prophète et qui avaient mal compris leur religion ont considéré que Abu Barzat al-Aslami, sa prière n'était pas valable, qu'il s'amusait dans sa prière parce qu'il tenait son cheval. Mais lui, il a dit, moi j'ai connu le prophète et je sais que dans ma prière, j'ai le droit de faire ça. Parce qu'on prend en considération une circonstance atténuante. C'est celle de mon cheval. Parce que si je lâche, il va se sauver. C'est-à-dire que je peux prier et me permettre certaines choses dans ma prière pour un bien matériel. Pour un bien matériel, quelque chose que je possède, pour quelque chose qui a une valeur, pour mon travail, n'est-ce pas? Parfois, parce que j'ai un travail et qu'il me rapporte de l'argent et que j'en ai besoin, je peux parfois me permettre certaines choses dans ma prière, même si, en règle générale, je ne dois pas prier de cette manière. Le prophète, un jour, c'est rapporté dans certaines traditions, il y avait deux personnes qui se disputaient, deux femmes qui se disputaient ou la deux filles qui se disputaient, et il les a séparées alors qu'il était en prière. Il est rapporté aussi que le prophète a ouvert la porte alors qu'il priait. Quand il priait et que sa femme était devant lui, parce que la pièce elle était étroite, il poussait de sa main la jambe de sa femme pour qu'elle replie ses jambes, Aïcha, et qu'il puisse prier. Donc c'est vrai que la règle, c'est de rester immobile et concentré, mais dans certaines circonstances, tu peux te permettre de faire certains mouvements, de dire certaines choses. Toujours, ça se limite au quoi ? Au besoin, et ta prière est encore bonne. Et en aucun cas, comme on disait tout à l'heure, tu ne dois délaisser ta prière. En aucun cas. Si tu ne peux pas la prier de manière parfaite, à cause d'une circonstance, alors tu la pries comme tu peux. Si l'heure va passer et que tu es dans un transport, que tu es au travail, que tu es occupé ou je ne sais trop quoi, eh ben tu pries comme tu peux, sans t'attirer bien entendu les foudres de ceux qui t'entourent, donc en restant discret, sauf si on te permet de le faire dans un endroit, mais si on ne te permet pas, ou qu'il n'y a pas d'endroit, tu pries comme tu peux. Tu pries comme tu peux et ta prière est bonne. Mais si tu peux rentrer chez toi et prier, avant que l'heure ne passe, rentre chez toi et prie. Mais si tu es dans un avion, dans un train, dans les bouchons, sur la route, ou un médecin, un chirurgien qui est en pleine opération, l'heure va passer, il doit travailler et en même temps il doit prier, il prie comme il peut, même si au final il finit par prier par l'esprit. Le tout, c'est de prier comme on peut avant que l'heure ne passe. Parce que, comme je vous ai dit, l'heure est très très importante. Voilà pour la prière. Donc, la prière, elle est très importante. C'est un fondement dans notre religion. Et il faut tout faire pour se concentrer. Alors, la concentration, c'est quelque chose, c'est un défi. On peut bien faire sa prière en apparence, dans les formes, mais la concentration, c'est vraiment le vrai, c'est vraiment le combat du croyant. C'est essayer de repousser à la fois les mauvaises idées du diable qui vient nous déconcentrer. Vous savez qu'il y a un diable réservé, un spécialiste pour nous déconcentrer dans la prière. Donc déjà, il faut combattre le diable dans la prière. Mais il faut aussi combattre quoi? Les idées qui nous viennent. Il y a certaines choses qui nous viennent en tête dans la prière. D'accord? Il faut essayer de les repousser. Également, s'il y a du bruit aux alentours, il faut essayer de quoi? De se concentrer. Et c'est pas facile, hein? C'est pas facile, c'est un combat, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que le prophète a dit, deux personnes prient, l'une, ça prie, la différence entre ces deux prières, c'est la différence qu'il y a entre le ciel et la terre. Parce que l'un est concentré et l'autre est distrait dans sa prière. Et la prière de la personne monte au-dessus de lui. Et si elle a été bien accomplie, dans la forme et un minimum dans le fond, un minimum de concentration, elle est acceptée. Ou sinon, elle lui est rejetée en plein visage. D'accord? Donc, il faut essayer de se concentrer au maximum. Comment faire? La concentration dans la prière commence avant la prière, au moment des ablutions. C'est pour ça qu'il y a une phase préparative, une introduction à la prière. Quand on fait ces ablutions, quand on fait ces ablutions, il faut bien avoir en tête que ces ablutions, c'est une manière de se préparer à la rencontre de Dieu, à la fois en se nettoyant, donc en se rendant propre, donc une hygiène, mais surtout en nettoyant son cœur, parce que vous savez la tradition prophétique qui dit que quand on fait ces ablutions, les péchés tombent des yeux. Les péchés tombent du nez avec l'eau des ablutions. Et les péchés, jusqu'à ce que les péchés coulent, hein, sortent sous vos ongles, à cause du mal que vous auriez fait avec vos mains. Donc avant de rencontrer Dieu, je fais mes ablutions, c'est-à-dire que je me débarrasse de mes petits péchés, avant de le rencontrer, comme on ferait avant d'aller à un entretien important, ou rencontrer une personne qu'on aime. Eh bien, on se fait beau, on se prépare. Même chose, on se prépare avant de rencontrer Dieu. Donc, il faut se mettre dans cet état d'esprit quand je fais mes ablutions, que je retire les péchés que j'ai pu faire, que je me nettoie, je me prépare, je me fais beau extérieurement, intérieurement pour rencontrer Dieu. Ensuite, si je peux, si j'en ai l'occasion, si j'en ai l'envie, c'est demander. Je fais précéder la prière obligatoire de deux prières surérogatoires. Ça me met dans l'ambiance. Ensuite, avant de commencer ma prière, il y a le adhan, il y a l'iqama. Même chose, ça aussi, c'est une préparation à la prière obligatoire, avant d'y entrer. Et avant d'y entrer, comment on y entre? En faisant le takbir, Allahu Akbar. Donc, quand on lève ses mains et qu'on dit Allahu Akbar, il faut essayer également de méditer cette parole Dieu est grand. Donc je vais entrer dans une autre dimension. Je vais quitter ce monde matériel pour entrer dans un monde spirituel et me mettre aux côtés du grand. Donc normalement, quand on s'imagine ça, eh ben ça nous met dans un état de crainte. C'est un effort à faire, quelque chose qu'il faut se mettre en tête. Ensuite, les gestes de la... Ensuite, dans la prière même, il faut se concentrer sur la parole qui est récitée de Dieu. Ou quand on est seul, essayer de comprendre ce qu'on récite, notamment le Fatiha. Ça, c'est le minimum qu'il faut comprendre, c'est le Fatiha. Et si on comprend bien le Fatiha et qu'on la médite en la lisant, ce qui n'est pas une tâche facile, eh ben, c'est obligatoirement, on se concentre et yani, on craint Dieu. Parce que Alhamdulillahi Rabbil Alamin, quand vous dites louange à Dieu, le maître des mondes, quand on le dit en le comprenant, ça veut dire Ya Allah, je fais ton éloge, je te remercie et je reconnais que tu es le maître des mondes. Ensuite, Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux. Donc tu dis de ta langue, Ya Allah, je reconnais que tu es quelqu'un qui m'a fait don d'immenses faveurs, notamment la vie, la subsistance, mais aussi la santé, la religion, etc. Maliki Yaoumiddin, tu es le roi, le maître, le jour des comptes. Donc là, on s'imagine le jour de la résurrection et qu'on va rendre des comptes. Donc là aussi, normalement, on doit craindre Dieu en disant ça. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, on dit à Dieu, je m'engage à t'adorer et à ne demander et à demander le et à te de, et à m'en remettre à toi, à demander ton soutien. Je n'adore que toi. Et c'est de toi que je tire mon soutien. Donc ça, c'est un engagement. Donc là aussi, ça doit nous pousser à quoi? À craindre Dieu. Ensuite, Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur la voie droite, vers la voie de la rectitude. Donc là, c'est une demande. On demande avec notre cœur que Dieu nous mette sur la bonne voie. Et non pas la voix de ceux que tu as égarés, ou la voix de ceux contre qui tu t'es mis en colère. Donc vous voyez, yani, c'est pour ça que le prophète a dit, quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Dieu te répond, mon serviteur a fait mon éloge, a proclamé ma grandeur, enfin a fait mon éloge, ou a proclamé ma gloire. Ensuite, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, il a fait mon éloge, Maliki Yawmiddin, il a proclamé ma grandeur, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ça c'est un engagement entre moi et mon serviteur. Donc il y a un dialogue entre toi et Dieu, ça aussi il faut essayer de s'y imaginer, c'est que Dieu te répond quand tu t'adresses à lui dans ta prière. Ça c'est pour la Fatiha, et c'est la plus importante. Ensuite, à toi, hein, de faire l'effort de comprendre aussi les sourates que tu lis de manière habituelle, hein, les petites sourates, ou les sourates que peut lire l'imam. Et ensuite, un conseil aussi, s'il y a des versets du Coran que tu aimes et qui te parlent, récite-les dans ta prière, parce que ça va t'aider à te concentrer puisque tu les aimes et tu les as médités. Donc ça, c'est quand tu es debout. Ensuite, quand tu es en génuflexion, donc quand tu t'inclines, là, tu t'inclines devant celui qui est très grand. Subhana Rabbi al-Azim, le grand. Ensuite, tu te relèves, tu te prosternes, et là, tu sais que le prophète a dit, quand tu te prosternes, c'est là, c'est dans cette position que tu es le plus proche de Dieu. Demande-lui ce que tu veux, il te donnera. Voilà, etc., etc. dans sa prière. Donc essayer de quoi? De bien se préparer avant de prier, c'est-à-dire bien faire ses ablutions. Quand on dit Allahu Akbar, on comprend ce que ça veut dire. méditer la Fatiha et les sourates qu'on va lire et essayer de comprendre les gestes, de les vivre. Que ces gestes-là, ils ont un sens, c'est que tu t'inclines devant ton maître, ton Seigneur, et cela jusqu'à la fin de ta prière, mais bien évidemment, tu seras déconcentré une fois, deux, trois, quatre, cinq, six fois dans ta prière par le diable, parce qu'il ne va pas te laisser. Il va pas te laisser. Et donc là, si tu es déconcentré par le diable, alors dis, comme nous a enjoint le prophète, dis « A'oudhu billahi minash shaitani rajim »« Ya Allah, je me réfugie auprès de toi contre le diable. » Et tu continues. Et c'est un combat, comme je vous dis, qui est long, qui prend beaucoup de temps. Et on arrive à se concentrer qu'après une longue lutte. Parce que la concentration, ce n'est pas une chose facile. Et sachez que Allah Azzawajal a dit dans Sourate Al-Baqarah, Wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. Et la prière est une lourde tâche, elle est pesante, difficile à accomplir, sauf qui, pour ceux qui l'accomplissent avec humilité et qui craignent Dieu. Qui sont-ils? وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Ceux qui ont la certitude qu'ils vont rencontrer Dieu et que vers lui ils vont retourner. Donc tout est en fait lié à la foi. Plus tu es certain que Dieu te voit, qu'un jour tu vas le rencontrer, que tu vas revenir vers lui, plus tu seras concentré. Yani plus durant le laps de temps qui sépare deux prières, c'est-à-dire dans ta vie quotidienne, plus tu ressentiras le regard de Dieu et plus facilement tu seras concentré quand tu fais ta prière. Parce que si déjà dans ta vie quotidienne, tu te rappelles de Dieu, deux fois plus si tu l'adores, tu es devant lui debout. Les deux sont liés. La prière, l'avant-prière, l'après-prière sont liés. Au moment même où tu pries. C'est pour ça que le prophète a dit, Allah Azzawajal a dit, Inna salata tanha anil fahsha wal munkar. La prière va t'éviter de commettre la turpitude et les choses blâmables. Donc, il y a un lien entre ta vie quotidienne et ta prière. Si tu commets des péchés durant ta vie quotidienne, tu seras moins concentré dans ta prière. Si tu essaies de bien te comporter durant ta vie quotidienne, bah, tu seras plus concentré. Et ainsi de suite. Tout est lié. Et tout à l'heure, quand on parlait des épreuves, on disait que tu arrives à supporter, à dépasser les épreuves, à bien les vivre, quand tu as la foi. Et bien Allah Azza wa Jal a lié dans l'épreuve la foi et la prière. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Et aidez-vous de la foi et aidez-vous de la patience et de la prière dans les épreuves. C'est-à-dire que tu vas réussir à surmonter les épreuves grâce à la patience et à la prière aussi. Parce que la prière, elle a aussi ce but de quoi? De te remplir de foi et de te rappeler hein, que c'est Dieu qui décide, et c'est Dieu qui, ta vie est entre ses mains, etc. etc. Donc, Abdullah ibn Omar a dit, le prophète a dit, « Bouni al-Islam wa ala khams » La religion, l'islam, repose sur cinq piliers. إقام الصلاة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله le témoignage de foi, l'attestation de foi. إقام الصلاة la prière, et la prière au sens de quoi? Son accomplissement comme il se doit. Parce que إقام الصلاة أقام يقيم en arabe, le verbe ici utilisé dans إقام الصلاة et qui est utilisé dans le Coran يقيمون الصلاة وأقيم الصلاة Al-iqama, aqama yuqim en arabe, ça veut dire rendre une chose droite. Rendre une chose droite, c'est-à-dire vous devez accomplir votre prière comme il se doit. Faites en sorte qu'elle soit droite. Bien l'accomplir. Iqam al-salah wa ita al-zakah, la zakat, wa hajj al-bayt, le pèlerinage, wa sawmi ramadan, le jeûne du mois du ramadan. Voilà ce qu'on peut dire sur ce hadith. Hein. On a insisté sur la prière. On insistera sur les autres piliers prochainement, inshallah, dans les autres hadiths. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Sur la prière? Ou bien sur ce qu'on a dit par rapport à la semaine d'avant, les épreuves et les bienfaits? Par rapport à la prière? quand on disait il faut essayer de l'accomplir même quand c'est pas facile, même quand on n'est pas à la mosquée ou chez soi, c'est-à-dire à l'extérieur. Est-ce que vous n'avez pas des questions par rapport à ça? Accomplir la prière dans les transports, sur le lieu de travail. Vous n'avez pas de questions par rapport à ça? Vous arrivez tous à bien prier malgré. Vous n'avez pas des questions par rapport à ça? Oui. Comment rester discret? Non. D'accord. Chauffe. Bien évidemment, je pars du principe que l'heure va passer et tu es encore dans le transport. Parce que si tu arrives chez toi. D'accord, donc on est dans un cas où vraiment. Oui, non mais c'est dans ce cas-là simplement. C'est-à-dire que tu es dans le transport, l'heure du Asr va passer, c'est bientôt le Maghrib. Tu es dans le transport. Est-ce que tu te dis j'attends de rentrer à la maison, je prierai le Asr et le Maghrib en même temps? Tu peux pas. Tu dois prier avant que l'heure ne passe. Maintenant, comment prier? C'est la grande question et c'est le grand défi. Bien évidemment, on est dans un contexte assez spécifique. Il y a une hostilité au fait de montrer son adoration. Ça, c'est clair. Surtout chez nous, hein. Donc, il faut rester discret. Il ne faut pas créer de troubles, s'attirer des ennuis. Oui, c'est pareil partout, hein. Transport, travail, voilà, la place publique, etc. Donc il faut rester discret. C'est possible en islam, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une souplesse, et il y a une adaptation de l'adoration au contexte, c'est possible de prier en restant discret. À toi de choisir la manière. Est-ce que tu peux être discret en priant assis sur ton siège? Moi, je l'ai déjà fait, je suis resté discret. Je l'ai fait dans un avion, je l'ai fait dans le bus quand j'étais étudiant. Moi, comment je faisais? Donc, je faisais comme ça. Donc, je suis assis. Bon, j'essaie de trouver un endroit, on va dire, bon, s'il y a une place libre, isolée, de préférence. Mais bon, parfois, c'est bondé. On ne choisit pas sa place. Donc, comment faire? Tout simplement, hein, tu fais le geste. Donc, tu fais comme ça. Tu dis tout au fond de toi-même. Allahu Akbar. D'accord? Et ensuite, tu récites, tu remues les lèvres, ou tu récites dans ta tête. Maintenant, le ruku', bah, tu t'inclines un peu, tu vois? Ensuite, tu te relèves un peu. Ensuite, tu t'inclines un peu plus pour la prosternation. Tu vois? Donc, tu essaies de t'approcher des mouvements de la prière, de les rendre de manière symbolique. Mais dans ta tête, tu récites ce qui doit être récité. Et ainsi jusqu'à la fin. Maintenant, si quelqu'un te dit, hey, prête-moi, je sais pas quoi, ou il te demande un renseignement, ok? Qu'est-ce que tu fais? Bah, soit tu le calcules pas, et ça passe, ou soit tu réponds, dans ce cas-là, tu recommences ta prière. D'accord? Maintenant, parfois, c'est même pas possible de faire ce que je t'ai dit, surtout dans le lieu de travail. Alors, partons du principe que tu as discuté, tu as demandé au patron, tu as vu ton employeur, tu lui as dit voilà, hein, et il refuse. Bah, évidemment, oui. Bah, oui. Si tu pries, forcément, il y a l'intention. Ça, c'est évident. Hein. Non, tu peux toujours la faire. Maintenant, c'est comment? Tu peux toujours prier. Maintenant, c'est comment? Parce que même celui qui est sur son lit et qui ne peut pas se lever, s'il se lève, il va avoir le tournis. S'il se lève, il va vomir. Il est handicapé. Il peut et il doit encore prier. Mais comme il peut. Comme il peut. Maintenant, tu vas me dire, ben moi, je ne suis pas dans ce cas-là, puisque lui, c'est un cas extrême, incapacité. Ouais. Parfois, le besoin prends le statut de la nécessité dans ces cas-là. D'accord? Quand tu as peur. Ouais. Mais il faut faire l'effort au départ de trouver un compromis. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait la demande et ça a été accepté. Surtout quand on travaille de manière sérieuse et parfois on arrive à trouver un compromis avec l'employeur en lui disant ben, je rajouterai du temps sur mon. Hein, je rajouterai une heure de travail, un deal, ou bien je prendrai pas de pause, ou je ne sais trop quoi. Bref, il faut essayer de trouver un compromis pour prier dans un endroit de manière parfaite, si ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, on prie comme on peut. Parfois, ce n'est même pas possible de prier comme je vous ai dit. Comme quelqu'un, par exemple, qui doit bouger dans son travail. Il est sur la chaîne. Ou bien il conduit. Ou bien, je sais pas moi, un médecin qui il est en pleine opération, etc., etc. Des cas comme ça. Ou bien quelqu'un qui est serveur, qui sert. Je ne sais trop quel métier qui t'empêcherait de rester immobile et de faire ces gestes. Eh bien, tu finis au final, mais c'est un cas vraiment extrême, tu finis par prier avec ton esprit. Comme ça a été le cas au temps du prophète, d'un homme qui a été envoyé en mission. Il devait aller espionner le camp ennemi. Et il lui a dit, et ce compagnon dit, je me suis retrouvé dans le camp ennemi avec le chef de guerre, et il m'a dit, viens, je vais te faire un tour de la garnison. Donc il est avec lui, il fait un tour de la garnison. Bien évidemment, il ne va pas lui dire, je vais aller prier, il va savoir que c'est un espion, il va lui couper la tête. Donc il doit trouver une astuce. Et bien il marchait avec lui et il priait dans sa tête. Tu vois? Quelqu'un qui est en prison, ça arrive. Quelqu'un qui est en prison, je ne sais pas, ou quelqu'un qui est en jugement, tu vois, quelqu'un qui, un prof qui enseigne, quelqu'un qui surveille, le métier de surveillance, tu vois, t'es en situation où tu ne peux pas. Là, tu finis par prier avec ton esprit. D'accord? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. C'est la règle. Dieu ne t'impose que ce qui est dans ta capacité. C'est tout. Tu ne pouvais pas prier. De la manière parfaite, eh ben tu pries comme tu peux. C'est tout. Voilà. Naam. À la limite, c'est pas si grave. Parce que la voix haute, elle a un minimum, elle n'a pas de maximum. Le minimum de la voix haute, c'est de s'entendre. Regarde. Ça, c'est le minimum de la voix haute. Moi, je m'entends. C'est le minimum de la voix haute. Si tu fais comme ça, c'est bon, c'est la voix haute. Et c'est en même temps le maximum de la voix basse. Oui. Comment faire? Ouais. Naam. Bon, déjà, généralement, quand on n'a pas l'eau, on trouve quelque chose pour faire son tayammum. Mais partons du principe que tu n'as rien. Maintenant, il a donné l'exemple du transport. Dans le transport, il y a quand même quelque chose. Hein, certains savants disent que la poussière vient de la terre. Et donc, si tu as sur ton tableau de bord de la poussière, au niveau du tapis qui est en bas, ou je ne sais trop où, hein, tu touches la poussière et tu fais tayammum avec. Tu vois? Comme ça a été un cas qui a été un peu imaginé, enfin pas imaginé, mais qui est supposé, qu'on peut supposer rencontrer quand on est dans un avion. Donc là, eh ben, certains disent, tu frappes le siège, de la poussière qui truc, tu l'as, tu vois. Si t'as pas, t'as rien, il n'y a pas de poussière, c'est super nickel, tout est propre, eh ben dans ce cas-là, tu pries dans ton état. Et tu n'as pas recommencé ta prière. Oui? Non, non, ça ne marche pas, ça. Non, ça ne marche pas parce que c'est une matière qui a été transformée par l'homme. Et même, à aucun moment, ça n'a rien à voir avec la terre. Tu vois, parce que tayammum, on le fait avec l'un des composants de la terre. C'est-à-dire une pierre, la terre, pas ce qui pousse, hein, pas ce qui pousse. Hein, l'herbe, etc., le bois, non. Mais tout ce qui est une composante de la terre, même le calcaire, même le marbre, d'accord, tout ça, c'est tu peux faire les ablutions, le tayammum avec. Tout ce qui est autre, ça ne marche pas. Et si l'un des composants de la terre a été transformé par l'homme, d'accord, tu ne peux plus l'utiliser. Par exemple, une brique, c'est de la terre, enfin, ou de l'argile, ou je ne sais trop quoi, mais qui a été transformé par le feu et ça donnait autre chose. Donc là, ça ne marche plus. Tu vois? Maintenant, si tu ne trouves ni eau ni terre, Eh ben, tu pries comme ça. Tu pries comme ça et tu n'as pas à recommencer. Enfin, la précaution, ça serait de rattraper, la précaution. Mais certains disent non. Tu as prié comme tu pouvais et c'est ce qui t'est demandé, c'est de prier comme tu peux. Oui, pas de problème. Pas de problème. Oui, naam, naam. Si quelqu'un a une souillure sur son vêtement et qu'il doit travailler avec, par exemple le boucher, il a du sang. Naam. Ouais. Qui travaille où? D'accord. Ken halab zaf, ok. Celui qui est en contact avec la souillure dans son travail, c'est-à-dire urine, excréments, hein? Non, chauffe, le sang, c'est pas une souillure. Dem machine. Non, non. À la kulli hal. Naam, naam. Chauffe, celui qui est en contact fréquent avec la souillure, il a une dérogation, c'est de prier comme ça. Comme la femme, la mère, la nourrice, qui est en contact avec beaucoup d'enfants, des babysitters les maternelles, ou tu vois, et qui sont toujours en contact avec les enfants, et donc et ben les enfants, ils font pipi, je ne sais trop quoi, donc ils ne peuvent pas changer toujours de vêtements, c'est pas possible. Dans la journée, ils vont changer 5 fois de vêtements. Celui ou celle qui est en contact avec la souillure, il a une dérogation, c'est de prier même avec la souillure. Parce que il y a une règle qui dit dans les souillures, à partir du moment où une souillure devient gênante, parce qu'on est en contact fréquent avec elle, ou qu'on ne peut pas la retirer, ouais, c'est pardonné. Ça, c'est une règle. Donc quelqu'un infirmier, une personne qui, je sais pas moi, un vétérinaire. Quelqu'un qui travaille, je ne sais pas, qui nettoie les égouts, s'il y a des impuretés dans l'égout, ou... Ouais, dem, il y a divergence que c'est une souillure ou pas, mais par contre, le principe que c'est une souillure, même ceux qui disent que dem, c'est najasa, souillure, ils te disent, le boucher, par exemple, c'est pas grave. Il est en contact fréquent, c'est pas grave, il peut prier avec. Pas un souci. Kaina rursa, dérogation. Parce que c'est le cas de qui? C'est le cas de ceux qui faisaient le jihad, ceux qui faisaient le jihad à l'époque du prophète. Ouais, bah ils se battent, il y a du sang sur eux. Ou bien ils étaient sur les montures elles ont souvent du crottin, elles ont de l'urine. Donc ils priaient comme ça, dans leur état. Donc hein, c'est permis. Il y a aussi un problème parfois de qibla. On n'arrive pas à se mettre dans la bonne qibla, notamment quand on est dans le transport. Là aussi, si t'es pas dans la bonne direction, tu peux pas te mettre dans la bonne direction, c'est pas grave. Ou bien parfois, tu peux pas couvrir ta nudité comme tu veux. Comme la femme ou la jeune fille étudiante qui serait hein, au collège ou au lycée. Ses cheveux, elle doit les découvrir. Pourtant, elle doit prier. Donc elle prie dans son état. C'est pas grave. Comme elle peut, en restant discrète. Sa prière est acceptée. C'est une règle que vous connaissez, c'est en cas de difficulté, en cas d'incapacité, il y a toujours une dérogation et Dieu ne nous impose pas ce qui est au-delà de nos forces. Et il y a ce principe de quoi? D'adaptation, de souplesse dans la religion. Hein? Et dans tous les cas que vous pouvez rencontrer, hein, restez avec cette logique. C'est que quand je suis dans un cas difficile, il y a une dérogation. Voilà. Ouais. Non. Pas de questions sur le sujet? Peut-être questions? D'accord. Ok. Ok, ben on va s'arrêter là, inshallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.